au café de la mort.
Ne chantez pas la mort, c'est un sujet morbide. Le mot seul jette un froid aussitôt qu'il est dit.
Avec Christian Hervault et Jean-Paul Souzède.
La mort. La mort.
Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Bienvenue pour cette émission où, comme à l'accoutumée, nous parlons entre autres de la mort, mais aussi de la vie, comme vous le savez, dans cette émission, parce que l'un et l'autre sont forcément liés. Et aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Bernard Cavalier. Bonjour, Bernard.
Bonjour.
Bernard Cavalier. Vous nous avez rejoint aujourd'hui avec Jean-Paul Souzède, qui fait opération avec moi. Et donc, pourquoi nous vous avons invité, Bernard Cavalier? Eh bien, tout simplement, déjà, vous êtes médecin, vous êtes membre de l'Église protestante unie, et puis, vous faites partie d'une équipe pour les services funèbres, pour les entretiens, pour accompagner les familles dans leur deuil. Alors, je me tourne vers Jean-Paul d'abord pour que peut-être il nous explique ce que c'est que cette équipe, qui y participe et quel en est le but et le fonctionnement. Voilà, pour que les auditeurs comprennent déjà au départ de quoi il s'agit quand je dis équipe des services funèbres.
Mais peut-être qu'on peut remonter encore un peu plus haut pour dire que dans l'Église protestante, les fonctions qui sont effectuées dans une église ne sont pas assurées que par des pasteurs, mais peuvent être aussi assurées par des ministres, par des laïcs qui sont reconnus par le conseil presbytéral. Ça peut être pour la prédication, ça peut être pour la catéchèse, ça peut être aussi pour faire des services d'enterrement. Et c'est le cas. Donc nous sommes une équipe de 5 bénévoles laïcs qui nous sommes engagés à assurer des services funèbres. Et c'est une manière, je crois, de partager le ministère et de faire en sorte que le ministère ne soit pas que le ministère des clercs, de professionnels, mais c'est aussi des engagements, des responsabilités que des laïcs peuvent assurer.
Voilà, donc il y a les pasteurs, évidemment, qui assurent les enterrements, et il y a donc 5 autres personnes. Est-ce qu'on pourrait les nommer, Jean-Paul ? Alors, est-ce que tu te souviens de tout le monde?
Non, ça
on va t'aider sinon.
En tous les cas, Bernard Cavalier en fait partie, Christian Hervault en fait partie, moi-même, et puis...
Sylvie Valette de temps en temps. Quelquefois Odile Godin.
Exactement, et qui encore?
Il y avait aussi notre ancienne présidente.
Ah bah oui. Sylvie Franchet-Despéré.
Sylvie Franchet-Despéré,
qui maintenant, pour le moment, de santé,
n'est plus partie, n'est, fait n'est plus partie de l'équipe.
Opérationnelle, oui.
Est-ce que Marie-Hélène Bonny-Joly en a fait
Marie-Hélène partie? Marie-Hélène en a fait partie au tout début, et puis ensuite, elle a, pour différentes raisons, elle a changé son fusil d'épaule et elle assume pas mal de ministères dans l'Église différents. Elle ne peut pas tous les assumer, et celui-là, elle a préféré passer à autre chose.
Voilà.
Voilà, et la pasteur qui est en lien avec nous, Iris Reuter, oui. Principalement, avec laquelle nous faisons aussi des rencontres mensuelles en visioconférence.
Voilà, qui est une manière de réguler, de parler de nos pratiques, de nos expériences, de nos questionnements aussi autour de qu'est-ce qu'on annonce, à quoi servent des services funèbres, comment accompagner les familles, quelle est la prédication, quel message que nous voulons transmettre. Enfin, toutes les questions que nous pouvons nous poser à l'occasion de ces accompagnements des familles en deuil.
Et puis, comment est-ce que nous fonctionnons? Parce que c'est une équipe et donc, voilà.
Oui,
tout à fait. Qui va faire l'enterrement? N'importe qui, n'importe quand?
Non, pas du tout. C'est tout un planning que nous organisons où nous prenons en charge une semaine par mois ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois. On se répartit les semaines entre les ministres, les pasteurs et puis les laïcs et notre équipe pour assurer les services funèbres pendant la semaine où nous sommes chargés de les assurer.
Voilà, et nous sommes en lien aussi avec quelqu'un d'autre.
Avec Frédéric Galzin,
voilà.
Qui est responsable du cimetière protestant et qui lui reçoit les appels de la part des pompes funèbres, parfois directement des familles, pour pouvoir orienter les familles vers l'un de nous. et assurer comme ça l'accompagnement dans cette période de crise existentielle, en tout cas de souffrance, que peut représenter un deuil.
Voilà, donc vous voyez, chers amis auditeurs et auditrices, nous sommes une équipe où nous positionnons pour une semaine. On nous appelle, Frédéric Galzan en général nous appelle, suite à une demande des pompes funèbres. Et voilà, nous nous mettons en lien avec la famille, la personne vers laquelle nous irons pour un entretien.
Ou plusieurs.
En principe, là où nous pouvons, c'est-à-dire soit chez elle, soit dans un autre lieu. Je ne sais pas comment vous pratiquez. Moi, quelquefois, je vais à la maison du protestantisme, puisque pour rencontrer les personnes, pour avoir un bureau, voilà. Donc, je me tourne maintenant vers Bernard pour lui demander pourquoi est-ce que vous avez voulu faire partie de cette équipe ?
Alors, voulu, le terme est peut-être un peu excessif. En fait, au début, j'ai accepté parce que je suis engagé dans l'Église. Je l'ai vécu un peu comme un service, comme un challenge, hein, pour être franc, parce que j'avais une façon d'aborder les gens en souffrance, mais complètement diamétralement opposée. Et là, c'était une autre façon d'aborder une souffrance. Ça m'a un peu effrayé au début, parce que parler de la mort quand on a été médecin et qu'on a passé sa vie à essayer de lutter justement contre la mort, on arrive là après une échéance. C'était pour moi, voilà, c'est d'abord été un service. Ensuite, ça m'a intéressé parce que c'est une autre façon d'aborder les gens et je trouve que c'est quelque chose que j'ignorais et qui, enfin, que j'ignorais. J'ai moi-même eu des deuils, mais enfin, je veux dire, je ne savais pas comment aborder ça. J'avais un peu une certaine crainte. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait un espèce de continuum entre la façon dont je le faisais quand j'étais en activité et la façon dont je peux le gérer en phase des deuils. Bon, maintenant, il faut dire que j'ai eu la chance de n'avoir, enfin la chance entre guillemets, de n'avoir à enterrer que des personnes qui avaient déjà vécu, etc. Je n'ai pas eu à gérer de problèmes dramatiques, de deuil de prématuré, de deuil de jeunes, etc. Donc, je ne sais pas du tout... là, comment ça se passerait. Mais voilà, ça m'a... Je trouve que c'est important parce qu'on trouve vraiment les familles, on découvre des familles dans ce qu'elles ont de plus réel. Les familles se révèlent souvent au moment des deuils et il faut, dans un laps de temps relativement court, arriver à comprendre comment fonctionne une famille, où peut y avoir des dysfonctionnements, quels sont... Enfin, c'est toute une gymnastique qui, sur le plan purement intellectuel, est intéressante. Et puis après, c'est un service, je trouve, qui est finalement extrêmement utile. Parce qu'on se rend compte que les gens ont besoin de cet accompagnement et qu'on peut avoir une fonction très, très utile.
Donc on vous a demandé, on vous a interpellé.
On m'a demandé si je voulais bien faire partie de ça et comme j'aime bien ce genre de challenge, je me suis dit oui, pourquoi pas, je vais essayer en me disant si je vois que j'y arrive pas, je renoncerai. Mais je ne dirais pas prendre du plaisir parce que le terme paraît un peu excessif, mais je trouve que finalement réfléchir avec d'autres personnes sur la mort quand ils sont eux en situation de deuil, c'est quelque chose qui est utile, on l'espère pour eux, mais qui est aussi utile pour soi.
Alors moi j'ai du plaisir à faire.
Oui.
Ah
oui.
Jean-Paul, on vous a aussi demandé,
non,
moi, puis vous avez intégré
non,
l'équipe.
J'ai choisi, c'est parti d'un projet que j'avais en tête depuis déjà quelques mois, parce que je vieillis, que donc la mort me préoccupe de plus en plus. Et puis, je trouve que dans notre société occidentale, c'était pour ça que j'avais monté le Café de la Mort pendant cette année 2025-2026, c'est un sujet qu'on évite beaucoup. Et l'Église est un des rares lieux où on peut en parler sereinement, avec une certaine espérance aussi, qui est celle de la foi, bien sûr. Et que je trouvais que c'était important de... Voilà, je trouve que c'est un moment particulièrement privilégié dans les familles où ça parle. Et je trouve que les familles nous font un cadeau merveilleux de pouvoir... nous raconter leurs émotions, nous raconter l'histoire du défunt, l'histoire des liens parfois douloureux, parfois merveilleux avec la personne qui est décédée. Et je trouve que c'est un moment privilégié, un beau cadeau que les familles nous font de pouvoir être là, les entendre, les accompagner et trouver les mots pour une célébration, trouver des mots qui soient justes.
Oui.
Dans l'Église protestante, il n'y a pas d'extrême onction, il n'y a pas de sacrement qu'on donne au moment de la mort. Donc c'est juste une célébration qui vient dire notre espérance et notre foi et qui vient aussi dire notre reconnaissance du défunt. Donc je trouve que c'est important de trouver des mots qui soient appropriés en fonction de la famille et de la situation de la personne décédée.
Mmh.
Et ça, je trouve que c'est assez génial comme travail. C'est fatigant au sens ça demande un effort. Il n'y a pas de texte tout fait, même si on peut trouver des textes tout faits parfois. Mais c'est trouver les mots qui soient justes et qui correspondent vraiment à la réalité de la famille et de la personne.
Mmh. Adapter chaque discours vraiment à la personne, savoir comprendre ce qu'ils ont. Et puis alors surtout, moi ce que j'essaye de montrer, c'est en quoi la vie de ceux qui restent ne s'arrête pas avec la mort d'une personne. Dire que cette mort n'est pas la fin de quelque chose, mais que même en raison même de la douleur qui est présente et en raison de la mort du défunt, en dépendant de ce deuil, il faut continuer à vivre malgré tout. C'est le plus bel hommage qu'on peut rendre à un mort, c'est de dire, eh bien, nous sommes tristes de te quitter, mais la vie ne s'arrête pas avec toi parce que tu nous as appris que la vie devait continuer après toi. Après, on l'adapte en fonction de ce qu'on voit, mais enfin, moi, c'est ce que j'essaye de dire, que la vie ne s'arrête pas là et qu'il faut continuer dans la reconnaissance de ce qu'a été cette personne, de ce qu'elle nous a apporté, mais en disant que finalement, en faire le deuil, c'est aussi accepter de continuer à vivre malgré l'absence. Alors c'est toujours... voilà, on a un laps de temps finalement assez court, hein, une heure à peu près, une demi-heure, une heure, pour essayer de comprendre toute la problématique d'une famille. C'est finalement pas facile.
Non, c'est pas facile.
Mais c'est... Oui, très intéressant.
Oui.
Le terme de plaisir en termes...
C'est plaisir au sens où il y a de l'excitation, il y a du vivant, à rencontrer des personnes dans leur humanité, dans leur chagrin, dans leur tension parfois familiale que peut révéler un décès. Oui. Et voilà, moi ça me...
Quand tu dis ça, ça me rappelle un peu ce que j'ai fait à un moment où j'ai fait pas mal de réanimation néonatale. C'était à la fois douloureux et en même temps, effectivement, on avait l'impression qu'il y avait des choses importantes qui se jouaient. On était content de le vivre, triste pour le gamin qu'on soignait, mais en même temps excité. Il y avait une sorte d'excitation à essayer de
On est dans le vivant.
De gérer. On est dans le vivant. On est dans la lutte pour la vie.
Je crois qu'il y a pour moi, ce qui est important, c'est la relation dans ce moment-là qui est très particulier. Et ce que les gens nous donnent, en fait, ce que les personnes, dans l'entretien, nous livrent d'eux-mêmes, et comment être là avec eux dans ce moment particulier, et comment faire en sorte que ce service funèbre, donc qui est un culte, en fait, un petit culte, hein, une célébration, chacun a sa façon de fonctionner par rapport à ça, chacun d'entre nous, et chacun y met quelque chose aussi de ce qu'il croit, hein, de ce que nous vivons. Mais voilà, je crois que c'est ça, oui, cette relation aux autres qui est importante et qui fait du bien, en fait, parce que c'est vital. Là, voilà, c'est la vie, comme vous dites, Bernard Prévalier.
Et je crois qu'il y a besoin de temps, et peut-être on peut profiter de cette émission pour dire aux personnes qui peut-être auront un décès à vivre prochainement, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec le cimetière protestant pour qu'on ait du temps, et si vous pouvez prendre du temps d'une célébration à la chapelle, ça nous donne de la liberté et de l'aisance pour pouvoir justement vivre ce moment de séparation paisiblement, sans être bousculé. Je le dis parce qu'on a un peu des soucis avec le crématorium. Ils sont des gens tout à fait honorables et très respectueux, mais en même temps, on a peu de temps. Donc peu de temps, parfois c'est 20 minutes, une demi-heure maximum, pour voilà, pour avoir le temps de lire des textes, pour avoir le temps de, d'entendre des témoignages de la famille. Et parfois, c'est trop court. Donc, nous, on insiste beaucoup pour que ne vous précipitez pas avec les pompes funèbres à organiser des célébrations, des process d'enterrement en passant par le crématorium, si c'est le cas. Prenez le temps de consulter le cimetière protestant. Prenez le temps d'aller à la chapelle où là, il y a un espace qui nous est privé, qui nous est libre, où on peut prendre le temps, justement, parce que je crois que mourir, quitter, ça demande du temps. Du temps pour dire, du temps pour remercier, du temps pour pleurer, du temps pour se voir aussi, parce qu'en famille, on a le temps, on a la chance de se voir à ce moment-là. C'est un peu bizarre, mais c'est précieux. Et tout ça demande du temps, ce que n'offre pas toujours le crématorium.
Mmh. Avant de poursuivre notre réflexion à ce sujet des équipes de services funèbres, et merci à Jean-Paul pour cette intervention au sujet du cimetière, qui me tient à cœur aussi d'ailleurs, et je crois à tous dans notre fonctionnement. Nous allons prendre le temps d'une petite pause de musique, et je vous propose d'écouter Patrick Fiori dans une chanson qui s'intitule « Tu n'es plus là ». Et oui, nous revenons juste après ensemble pour continuer notre conversation.
Il y a sur mon cœur comme un trou béant, le vide silencieux laissé par ton départ. Les murs de ma maison résonnent doucement de tes rires égarés que je cherche le soir. Ton fauteuil, ton parfum, tous ces petits riens sont des ombres brûlantes de ce que fut hier. Chaque seconde glisse comme un long refrain dans le froid de l'absence où je me perds. J'avance sans fin dans ce couloir vide, chaque souvenir m'appelle, mais c'est toi qui l'évite. Je t'appelle en silence, je pleure sans voix. La vie passe lentement, mais toi tu n'es plus là. Les saisons défilent dans l'indifférence, mais le temps ne change rien à ton silence. Chaque matin répète la même douleur quand le vide de toi fait battre mon cœur. Je parle aux étoiles qui brillent encore, cherchant un signe, un geste, un peu de ton corps. Mais le ciel se tait, mon regard se lasse dans cette solitude où ta voix s'efface. J'avance sans fin dans ce couloir.
Vous êtes bien sur le 103.2, vous nous écoutez en DAB+, peut-être, ou peut-être sur nos podcasts. Vous savez qu'il y a de nombreux podcasts sur radioallianceplus.fr et vous pouvez donc en profiter largement et en profiter pour réécouter peut-être les émissions avec Jean-Paul Sauzette qui s'intitule « Au café de la mort ». C'est celle que nous sommes en train de vivre ensemble avec Bernard Cavalier aujourd'hui, qui fait partie de cette équipe de prédicateurs, prédicatrices laïques, et qui essaye d'avoir cet entretien, cette relation avec les familles en deuil. Alors j'aimerais savoir un peu comment, qu'est-ce qui est important pour vous ? Qu'est-ce qui est important pour vous de vivre avec ces personnes ? Vous l'avez déjà un petit peu nommé. Est-ce qu'il y a des choses à transmettre ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pose question dans ce que vous vivez avec ces personnes ? Est-ce qu'il y a eu des fois des interrogations, des questionnements ? Voilà, certainement beaucoup. Nous n'aurons peut-être pas le temps de tout dire, mais on peut en nommer peut-être quelques-unes.
Oui, je crois que, effectivement, il y a plus de... Nous sommes, comme le disait Jean-Paul tout à l'heure, dans l'espérance, mais moi, personnellement, j'ai plus de questions que de réponses à apporter. Et c'est vrai que je me pose par exemple la question, qu'est-ce que c'est qu'annoncer la grâce en 2026 maintenant? Qu'est-ce que c'est qu'annoncer l'espérance d'un au-delà en 2026? Qu'est-ce que c'est que, etc. La foi, la notion du rapport entre l'homme et Dieu évolue avec le temps, continue à évoluer. Est-ce qu'on peut annoncer, est-ce que l'annonce de la résurrection, elle en 2026, elle est la même que ne serait-ce que dans les années 50 ou même avant? Enfin, moi, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Je n'ai pas de réponse. Je suis dans l'espérance, mais je suis dans l'incertitude absolue surtout. Et c'est vrai que pour moi, ça peut être une difficulté en fonction des gens que je vois au moment des obsèques, parce que très souvent, on enterre quelqu'un qui a été chrétien dans une famille qui ne l'est plus. Et qu'est-ce que c'est, quel message tenir qui soit à la fois cohérent avec la personne, avec ce qu'a été le défunt, et qui reste en cohérence avec quelquefois les descendants qui n'ont plus aucun rapport avec l'Église, si ce n'est ponctuellement, justement, à l'occasion du décès d'une personne qui était elle-même chrétienne. Enfin, oui, moi, j'ai beaucoup, beaucoup plus de questions que de réponses, mais je chemine. Et puis alors, je dois remercier le groupe, tous les membres du groupe et Iris Reuter pour cette réunion que nous avons périodiquement, au moins une ou deux, enfin, tous les
oui,
mois.
Oui, en
ou
gros,
les
une fois
mois.
Par mois, à
ouais,
peu près, quand
tous
on
les
peut
mois, tous les deux mois.
Arriver à se rencontrer, ce qui n'est pas toujours évident.
J'ai d'abord découvert que finalement, mes questions n'étaient pas propres, mais vous aviez les mêmes. Et nous avons chacun notre façon d'essayer d'y répondre, et votre façon d'y répondre a une influence sur ma propre façon de l'envisager. Donc je trouve que là, il y a une espèce de communauté. Comme je dis souvent, dans l'Église, on est très différents, mais je m'y sens comme en famille. Très différents, mais c'est un peu ma famille, avec des gens avec qui je suis plus proche que d'autres, mais chacun a sa place et son utilité. Et ça m'aide à cheminer. Enfin voilà, donc grosso modo, j'ai plus de questions que de réponses.
Mais j'aime bien, c'est dans la tradition juive, tu sais, on dit Dieu est une question d'abord. Mmh. Et je crois que déjà de se poser la question d'un au-delà, ouais, d'un au-delà de soi-même, ben c'est pas rien. Et c'est sans doute ça une vraie démarche de spiritualité. Ouais. Et peut-être que si on n'a plus, ou en tout cas dans notre courant d'église réformée, si on n'a plus cette ferme assurance d'une résurrection, comme on le disait dans les années 50, on a la ferme assurance d'une espérance. On a la ferme assurance que la vie ne s'arrête pas au moment de la mort. On a la ferme assurance qu'il y a un au-delà de nous-mêmes qui nous échappe. On a la ferme assurance qu'un autre amour nous attend. Mais après, dire sous quelle forme, j'en suis incapable.
Oui. Et c'est encore une question. Cela
et est-ce voilà. Faut-il le répondre absolument? C'est pas sûr.
Qu'est-ce que, au-delà, disons, de la transmission, donc, et des questionnements que ça pose, la question de l'au-delà, la question de la résurrection, la question... Qu'est-ce que vous cherchez à... Ou comment vous cherchez à être ou à vivre ou à... Qu'est-ce que vous cherchez à apporter à ces personnes en deuil à ce moment-là? Qu'est-ce qui est important pour vous?
C'est facile, c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour. Au sens de rejoindre la famille, rejoindre le deuil et être dans un mouvement empathique, comprendre les mots, mettre des mots sur le défunt et sur les relations qu'il a pu avoir, rejoindre l'émotion qui est présente, comme la famille qui vient ce jour-là et qui se mobilise pour rejoindre les personnes les plus proches des personnes défuntes, ben c'est aussi une manière d'être proche. Et je crois que notre meilleur témoignage, ben c'est ça, c'est être proche, c'est être avec.
Oui.
Et c'est-à-dire, c'est manifester de l'amour et de l'attention et de l'attachement et quelque chose qui soit engagé et sincère. Et ça, c'est un vrai travail pour nous. C'est un vrai travail de don, de générosité, mais c'est un vrai travail de cœur. Et je crois que transmettre l'Évangile, en tous les cas, ça passe par là, prioritairement.
Alors moi, je partage entièrement ce point de vue. Je compléterai en disant que, au-delà de l'amour, c'est aussi essayer. Enfin, j'essaye toujours d'avoir dans le petit moment de méditation qu'il y a, c'est d'apporter aussi de la paix. Et puis, j'essaye aussi d'ouvrir une perspective en disant, ne vous arrêtez pas là. Il y a autre chose à vivre après. Et je pense que c'est important de le dire. Parce que il y a des gens qui se bloquent, qui peuvent se bloquer sur un deuil. D'ailleurs, quand on est en face de ce genre de situation, il y a toujours un certain nombre de réactions. D'abord, la dénégation, etc. Enfin, on connaissait bien ça dans le métier que je faisais. Jusqu'au moment où on s'adapte. Et on a là, je dirais presque une fonction thérapeutique. C'est la fonction de d'aider les gens à cheminer dans le deuil et ne pas se bloquer à une des phases du deuil, que ce soit la phase douloureuse, que ce soit la phase du déni, que ce soit quelle que soit la phase du deuil, de me leur montrer et de les aider à cheminer pour que ce deuil puisse se faire et que la vie puisse reprendre. Enfin, moi, c'est un peu le souci que j'ai, peut-être parce que quand j'ai exercé dans une autre vie mon métier de pédiatre, je devais aider quelquefois les gens à ne pas se bloquer sur un diagnostic de gravité pour un enfant ou le constat d'un handicap, etc. Mais leur montrer qu'il faut que la vie continue malgré ce quoi, et qu'il y a une vie à vivre.
Est-ce qu'il y a... Vous vous servez de textes bibliques? Est-ce qu'il y en a un ou... auquel vous pensez que vous voudriez un peu transmettre là aux auditeurs avant que nous nous quittions? Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Moi, j'aime bien dire au moment où le cercueil part au crématorium, c'est-à-dire dans le moment où il va se consumer, dans le moment où le cercueil rentre dans la fosse, raconter l'histoire du tombeau vide et comment les femmes, le jour de Pâques, montent au tombeau et le tombeau est vide. Et qu'au fond, la foi chrétienne, pour moi en tous les cas, c'est dire que la mort n'est pas la fin de toute chose et que le tombeau est vide. Mmh. Et ça, que ça rejoint la remarque de Bernard autour de « bah oui, c'est une question, quoi. Il reste du vide, on ne sait pas ». On ne sait pas, mais en tout cas, ça ne s'arrête pas là. Mmh. Et au contraire, les femmes redescendent en courant, les disciples vont remonter au tombeau en courant, tout le monde va bouger, s'agiter jusqu'à la Pentecôte et même au-delà. C'est dire que la mort, cette mort, cette disparition du corps de Jésus remet en mouvement. Donc la mort ne vient pas comme un arrêt, mais vient comme aussi une sorte de rebond.
Ah oui. Voilà, et
j'aime rappeler ce texte du tombeau vide.
Mm-mm. Cela nous permet de vivre et de rester vivant. Je retiens ce que Bernard a dit sur continuer à vivre, continuer à rester vivant, qui est important pour les personnes qui cheminent dans le deuil. Mm. Eh bien, nous allons devoir nous arrêter là, après ces quelques investigations au sujet de la mort que vous vivez à votre façon et que nous vivons à notre façon dans cette équipe de services funèbres. Et nous remercions en particulier Iris Rother de nous avoir intégrés dans cette équipe et de nous accompagner dans ces moments-là. Messieurs,
merci.
Je vous dis au revoir.
Merci.
Bonne
merci.
Suite à vous dans votre service, dans ce service si particulier. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
La mort.